Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Bozoum, capitale de l'Ouampéndé. Cette ville centrafricaine est à l'honneur. Aujourd'hui, nous débattons avec nos invités en direct de la rivière Koyalé en passant par le mont Binon. Sous la demande de la population de cette ville, de grands sujets sont au menu de notre débat politique d'aujourd'hui. L'insécurité persistante dans la région et la dégradation très avancée de la route. D'après des témoignages rapportés à notre équipe, des hommes armés rôdent tout autour de la ville de Bozoum. Il est difficile de circuler sur les axes Bozoum-Boussangwa, Bozoum-Bokaranga, Bozoum-Pawa, Bozoum-Boa, Bozoum-Boussemtélé. Au-delà de 25 km de Bozoum-Centre, c'est la loi de jungle qui prime, un véritable Far West. Les commerçants en font régulièrement les frais. À cela s'ajoute la dégradation très avancée de la route. Par exemple, il faut 4 à 5 heures du temps pour parcourir 87 km entre Bozoum et Boussemtélé. L'axe Bozoum-Bokaranga est impraticable par le véhicule depuis près de 4 ans. Presque toutes les infrastructures routières sont en ruine. En tout cas, le risque est énorme et le calvaire des habitants de l'Ouampéndé est loin de connaître une fin. Et ce, malgré la présence des forces armées centrafricaines et leurs alliés russes. Question: comment faire pour mettre fin à la prolifération des armes et de l'air porteur dans cette région? Que fait concrètement le gouvernement Moloua pour soulager la souffrance de la population de l'Ouampéndé? Et pour en débattre, nous avons monsieur le prophète de l'Ouampéndé, Dieudonné Yungaina. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Voilà, représentant direct du gouvernement dans cette émission. François Serekwese, bonjour.
Bonjour.
Technicien d'agriculture à la retraite, représentant de la société civile de l'Ouampéndé. Nous avons aussi le représentant de la jeunesse sous-préfectorale de Bozoum dans ce débat. Il s'agit de Jean-Luc Baknik, alias Eto. Monsieur, bonjour.
Bonjour, c'est le journaliste.
Et nous sommes en ligne avec vous, Bernard Dila, député de Ngaoundaï 1. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Armando. Bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour à tous mes frères et sœurs de l'Ouampéndé et de l'Ouampéndé.
Vous êtes le deuxième vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, le porte-parole du mouvement de libération du peuple centrafricain MLPC de Martin Ziguélé en direct de Bangui. L'honorable, vous allez vous rapprocher de votre micro pour que votre voix ne puisse sortir normalement. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Armando Anguindi, c'est moi, Abozomondi, Ndiande, Wikao Belta, Baipouke Anime. Merci beaucoup et nous lançons le débat dans un instant.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Voilà, ouvrons ce débat avec vous, monsieur le préfet. Quelle est la situation sécuritaire ici, dans la préfecture de l'Ouampéndé?
Merci, Armando. Je vais vous dire d'une manière ramassée, au niveau de Bozoum, s'il faut faire cette précision, c'est que la sécurité n'est pas celle que nous voulons. Du fait que tout autour de Bozoum, il se trouve des hommes armés. Voilà donc cette situation qui prévaut effectivement dans le secteur de Bozoum.
Alors, on va faire le tour de chacun de nous, hein, puisqu'on est dans Bozoum. Monsieur Baknik, vous dites le contraire ou bien c'est la même chose, ou bien le même constat?
Merci, c'est la même chose avec ce que le préfet de l'Ouampéndé venait de dire. La sécurité dans la ville de Bozoum est vraiment fragile, et même dans les périphériques. Dans les 5 axes qui mènent sur Bozoum, la situation sécuritaire est vraiment fragile. C'est pas ce que nous avons
fait. Fragile, comment?
Ce n'est pas parce qu'il y a des hommes armés dans les accès, dans les périphéries. C'est ce qui fait que c'est très fragile, monsieur le journaliste.
Oui, vous appelez Armando. Oui, monsieur Serekwese.
La sécurité est très, très, très préoccupante à Bozoum. La population est la plus affectée. Les gens ne sont pas libres de leur mouvement. On ne peut pas se déplacer comme monsieur le préfet et le gouvernement de jeunesse viennent de le dire. Nous tournons seulement à Bozoum comme si on était dans une prison, dans notre maison.
À ciel ouvert. Hein?
À ciel ouvert.
Et c'est quoi le vrai problème aujourd'hui?
Le vrai problème, c'est que la population est prise en otage. Le vrai problème, c'est que ceux qui sont appelés à maintenir
la sécurité.
La sécurité ne sont pas, peut-être ne sont pas
bien équipés.
Bien équipés. Ensuite, on viendra, comme vous l'avez dit sur la dégradation des routes, l'accès dans les zones en dehors de Bozoum est très, 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 très difficile. Les routes n'existent pas, les moyens de déplacement n'existent pas, la communication est presque est presque nul, presque, sinon dans la ville, seule ville de Bozoum, mais un peu loin de Bozoum, les gens souffrent.
Voilà, monsieur Bernard Dila, vous êtes avec nous, vous avez écouté, hein, on a fait le tour de table avec les représentants de chaque couche sociale ici à Bozoum. Vous avez suivi, hein, c'est un peu difficile et la situation reste encore précaire dans l'Ouampéndé.
Oui, Armando, je crois que nous avons, même au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons toujours tiré cette sonnette d'alarme que la situation sécuritaire, notamment dans l'Ouampéndé en général, c'est pas seulement dans Bozoum, dans l'Ouampéndé en général, que ce soit au niveau de Bozoum, que ce soit au niveau de Pawa, que ce soit au niveau de Bokaranga, que ce soit au niveau de Kouy, que ce soit au niveau de Ngaoundaï, toutes ces zones-là, aujourd'hui, vivent dans une insécurité qui ne dit pas son nom, et cela malgré l'espoir, un grand espoir que nous avons fondé sur le déploiement de nos FACA dans la zone, l'arrivée des alliés dans la zone. Voilà, aujourd'hui, à notre très grande surprise, c'est en ce moment même que la sécurité est en train de se dégrader de jour le jour. Et cette insécurité, il faut le dire dès le début, cette insécurité est aussi bien vécue par la population de la part des groupes armés et aussi de la part aussi des forces de défense qui sont dans la zone et qui tracassent cette population à ne pas en finir. Et quand je le dis pas... nos forces de défense en général, voilà, mais il y a des éléments de ces forces armées-là qui contribuent à cette insécurité et qui rendent même le déplacement de nos populations vraiment insupportable et inacceptable aujourd'hui. Donc, c'est réel ce que mes co-débatteurs sont en train de dire. Voilà, il y a un problème réel de sécurité dans la zone.
Mais puisque déjà nous avons ce constat de cette insécurité, mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour mettre fin à cette situation, parce que aujourd'hui c'est la population qui en fait le frais?
Oui, je pourrais répondre automatiquement. Je crois que la première des choses, ça il faut qu'on se le dise, on s'adresse d'abord aux responsables de la sécurité du pays. Nos FACA qui ont été déployés sur le terrain, on constate qu'ils n'ont pas des moyens de leur mission. Je ne sais pas si le cas de Bozoum est différent, mais ceux qui sont à Bokaranga, ceux qui sont à Ngaoundaï, ceux qui sont à Pawa, ils n'ont aucun moyen de déplacement. Et quand ils n'ont pas de moyens de déplacement et qu'ils n'ont pas aussi le matériel qu'il faut pour essayer de contrer ce groupe d'armées-là, de les forcer à abandonner la zone, mais naturellement, vous croyez que quand les militaires n'ont pas ça, le moral, ils n'ont pas le moral pour faire le travail comme il se doit. Ils ont aussi des problèmes aussi pour toucher à leur PGA et tout ça, ce qui les oblige, et on les comprend à un certain niveau, ce qui les oblige à exercer une tracasserie énorme sur la population parce qu'ils ont besoin de l'argent pour survivre, parce que leurs PGA ne sont pas touchés. On a échangé avec eux, nous sommes les élus de la nation. On a échangé même avec les responsables des détachements dans la zone. Ils nous ont dit un peu leurs difficultés, leurs souffrances. Il y a des gens qui sont là-bas sur le terrain depuis une année et quelques jours et qui ne sont pas remplacés. Et donc, il y a tout ça qui contribue à rendre ce problème-là complexe parce qu'ils sont là, les ennemis de la population, les groupes armés sont là, mais ils ne peuvent pas agir efficacement pour essayer de mettre ces ennemis-là hors d'état de nuire et donc de libérer comme il se doit la population et de laisser la population vivre en paix.
Voilà, on va écouter ici en retour dans le studio pour écouter M. Baknik, vous représentez la jeunesse de l'Ouampéndé et beaucoup plus de Bozoum dans ce débat. Vous voulez rebondir, je vois.
Oui, comme disait l'honorable député Tila, vraiment c'est tout à fait normal ce qu'il venait de dire. C'est vrai, il y a présence des FACA dans la ville de Bozoum et les alliés. Et si on parle de Bozoum, c'est pour dire qu'on parle de l'Ouampéndé et Bozoum en particulier. C'est vrai, il y a présence des FACA dans la ville de Bozoum, mais ils n'ont pas les moyens logistiques. Vous voyez, quand il y a même les intrus dans la ville de Bozoum et même dans les périphériques, les FACA ne peuvent pas intervenir parce qu'ils n'ont pas les moyens roulants. Comment ils peuvent intervenir? Et c'est ce qui fait défaut. On est pris en otage dans la ville de Bozoum. Les jeunes ne peuvent pas s'unir comme ils veulent. C'est fait qu'on a des problèmes, on a des sérieux problèmes. Et vous voyez vraiment, c'est très soucié pour nous les jeunes. C'est comme si l'avenir n'a pas bien préparé pour la jeunesse de Bozoum et de l'Ouampéndé. C'est ce que j'ai
dit. Monsieur Serkossé, sur ce point.
Oui, je rebondis, comme vient de dire l'autre. Non seulement que les routes, l'insécurité est en train de défendre la circulation, la circulation des biens des personnes, mais ces bandits armés ont leur technique. C'est comme si Bozoum, pour aller à Bokaranga, on ne peut pas faire un déplacement au-delà de peut-être de 10-15 km. C'est le même cas à Bozoum-Bossangwa, où il y a recrudescence de mines. Les gens passent, ils sautent sur les mines et que ça cause des dégâts énormes. Les petits commerçants, les jeunes qui se débrouillent pour faire le relais entre Bozoum et les villages, les communes, sur les différents axes, ont des problèmes. Pour ces problèmes de formalité, soit au niveau des FACA, pour permettre à
sur les barrières. Hein.
Sur les barrières, pour permettre à ces soldats de subvenir à leurs besoins. Alors que ceux qui font ces navettes peuvent informer nos militaires sur les mouvements des bandes armées, mais quand ils arrivent, quand on leur demande
la formalité,
parfois pris de peur, et ces jeunes ne peuvent pas orienter
ou bien informer
nos soldats, ça fait problème. Ensuite, quand ils viennent et qu'ils vont repartir...
Donc, il y a une sorte de méfiance, hein, y a une collaboration entre la population et les forces armées centrafricaines ici.
Exactement ça. Ces jeunes, non seulement les jeunes, même quand les gens se déplacent, parfois, eux, ils viennent en repartant avec leur bagage. Certains groupes armés les saisissent. On leur prend tout ce qu'ils ont acheté pour aller ravitailler les pauvres paysans, la collectivité rurale. Et ça pose problème et ça leur fait trop de...
Voilà, monsieur le préfet, mais après avoir brisé par exemple le bastion des 3 heures et selon la population, les hommes armés envahissent presque toute la préfecture, seulement les grandes villes que vous-même vous l'avez évoqué, hein, qui sont sécurisées. Mais comment expliquer qu'au-delà de 25 km ou de 15 km de Bozoum, des hommes armés continuent de régner en maître sans être inquiétés?
Oui, Armando, je reviens sur ce point en vous disant tout à l'heure que la sécurité est volatile dans la préfecture, le Luampéli d'une manière générale. Et comme l'a cité tout à l'heure l'honorable député, je reviens à votre question. Pourquoi aux environs presque de la ville de Bozoum, il y a encore des hommes armés? Je vais vous dire une chose. Après que les mécanismes ont été mis en place, après l'accord de Bangui, le 6 février 2019, des recommandations ont été faites. Au vu de ces recommandations, il y a eu des principes. Malheureusement, ces principes ont été bafoués par une partie. Et il va y avoir la création de la CPC. Dispersion, donc, des hommes armés. Et je vais vous dire aussi une chose. La ressource minière attire. Alors, les ressources minières attirent effectivement ces hommes armés. En majeure partie, ils sont là dans le secteur pour exploiter d'une manière illicite les ressources minières de la République.
Mais dans des chantiers bien connus, bien définis, bien identifiés. Hein?
Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui fait qu'effectivement, la piscose y est. De là, nous avons les forces armées centrafricaines qui sont effectivement dépourvues de leurs moyens de mobilité. Et ces moyens de mobilité ne leur permettent pas effectivement d'accéder à ces hommes armés. Imaginez-vous que quelqu'un qui est déjà placé avec une arme et l'autre qui vient et qui ne s'y connaît pas, je crois qu'il va tomber dans l'embuscade. Et c'est très important qu'il devienne méfiant sur ce point-là. Il appartient donc au sectoriel de la Défense nationale et l'état-major général des armées de se mettre en exergue pour prouver effectivement que nous avons une force qui est à même de chasser du pays les mécréants, permettez-moi le terme. Donc c'est très important ce que nous sommes en train de vous dire.
Mais est-ce que vous avez remonté en tant qu'autorité préfectorale certaines informations très importantes, hein, comme ça, comme celle-là à Bangui, pour une prise de décision adéquate?
Mais je vous dirais que, étant une autorité représentant effectivement le gouvernement, pourquoi garderais-je le silence?
Mais si aujourd'hui vous vous plaignez du fait qu'il n'y a pas de feedback entre vous et Bangui ou entre les autorités préfectorales et Bangui, c'est un peu difficile.
Non, il y a eu feedback. Donc, il revient donc à l'autorité compétente de prendre la décision.
Oui, monsieur Dila, est-ce que vous nous écoutez?
Je suis en train de vous suivre parfaitement. Je vous suis parfaitement. Je partage l'avis du préfet. C'est d'ailleurs ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Le problème, il faut que nous nous posions d'abord une autre question. Parce que si aujourd'hui nous avons les éléments de nos forces de défense qui sont dans la zone, nous avons l'assistance de nos alliés aussi qui sont dans la zone, nous pouvons effectivement nous poser cette simple question de savoir quel est véritablement le plan opérationnel pour ramener la paix dans la zone. Quel est le plan? Est-ce qu'il y a un plan pour ça? Parce que s'il y a un plan, il devrait y avoir les moyens adéquats à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a des moyens? Je crois que nous devons nous poser d'autres questions encore. Le préfet vient de parler de des ressources qui attirent, voilà, des ressources. Je ne sais pas si
c'est les ressources minières. Oui, c'est le préfet. Hein. C'est le préfet lui-même.
Des ressources, voilà, des ressources minières qui attirent. Mais nous n'oublions pas que nous avons ce phénomène de transhumance qui est doublement la cause aussi de l'insécurité dans la zone. Nous avons une transhumance et aujourd'hui, nous-mêmes, on se pose la question. Moi, en tant qu'élu de la nation, je me pose cette question. Quand les gens arrivent de l'extérieur dans des zones avec des armements et dès qu'ils rentrent sur notre territoire, leur présence automatiquement est accompagnée des gens armés. Voilà, parce que ces gens armés suivent, voilà, ces transhumants et bénéficient de ces transhumants-là des moyens énormes sur des taxes qu'ils prélèvent sur le bétail que les transhumants ont amené. Voilà, et ce sont ces moyens qu'ils perçoivent de ces transhumants qui leur permettent de se renforcer, de s'acheter des armes, de s'acheter des munitions et donc de redoubler d'activités nocives vis-à-vis de la population. Et donc, la population, l'insécurité est à ce niveau, à deux niveaux. L'insécurité à deux niveaux. Les groupes armés qui accompagnent ces transhumants et donc qui ont des armes, qui se ravitaillent, qui ont des moyens et donc de s'acheter des armes pour faire du mal et à la population et affronter même nos facas, si les facas les affrontent. Et aussi la population qui vit aussi un autre niveau d'insécurité, en ce sens que même les propres transhumants qui arrivent, nos cultivateurs ne sont plus en paix, ils ne sont plus respectés, ils ne peuvent plus avoir la maîtrise de leurs champs qui sont continuellement dévastés au vu et au su de tout le monde. Et parfois même, et c'est ça qui nous dérange parfois même quand nos pauvres paysans là, avec leurs champs dévastés, vont venir se plaindre au niveau des autorités, que ce soit la gendarmerie ou bien, je ne sais pas, les autorités locales, voilà, ils n'auront pas gain de cause. Et parfois parce qu'il y a une timide complicité, qu'on peut le dire, entre ces transhumants qui arrivent avec de bétail, avec un peu de l'argent et qui n'hésitent même pas à corrompre nos autorités locales. Voilà, c'est tout ça là qui crée ce phénomène d'insécurité qui se développe de jour en jour. Nous avons dit, quel est l'intérêt aujourd'hui de l'État de permettre à ce que ces transhumants-là arrivent en grand nombre et sans contrôle réel.
Et ça, vous voulez aussi évoquer la question de la porosité des frontières centrafricano-tchadiennes, hein?
Naturellement, si vous voyez bien que nous ne sommes pas en mesure de garantir la sécurité au-delà de 15 km de Bozoum, de 15 km sur l'axe Bokaranga, 15 km sur l'axe Gouar, 15 km sur l'axe Bara, ce n'est pas les frontières que nous allons garantir la sécurité de ces frontières-là. Monsieur... Les frontières sont tellement poreuses.
Monsieur le préfet...
Quand nous n'avons pas ça, il faut prendre les choses. Il faut prendre les choses en amont, discuter avec les pays frères-là, que nous ne voulons pas en ce moment la transhumance parce que nous n'avons pas encore les moyens qu'il nous faut pour contrôler tout ce qui rentre, pour éviter qu'ils nous amènent des armes, qu'ils nous amènent, avec eux,
des éleveurs armés,
de chemin, qui vont utiliser la richesse.
On va écouter le préfet, monsieur le député. Monsieur le député, le préfet veut répondre rapidement. Oui, allez-y, monsieur Yungaina.
Oui, j'ai suivi avec intérêt l'intervention du député ici, mais je vais lui rafraîchir la mémoire d'une manière simple. Nous avons tenu une réunion bipartite avec la partie tchadienne il y a de cela 6 mois, où nous avons débattu du contour de la transhumance et une transhumance apaisée. J'étais avec le sous-préfet, pour ne pas dire le préfet intérimaire de Limpende, le préfet de Niapende, qui est au Tchad, et moi. C'est moi qui ai présidé donc cette rencontre. Tous les contours sécuritaires ont été vus, pour ne pas dire déblayés. Malheureusement, il y a une complicité qui est avérée en amont. Permettez que je vous le dise.
Qui est qui, hein.
La complicité, si je dis que c'est en amont, c'est que c'est de la partie tchadienne. Qu'est-ce qu'on n'a pas retenu? Qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit? Nous leur avons recommandé que désormais, tous les éleveurs en transhumance sur le territoire centrafricain doivent être fouillés. Est-ce que cela est fait? Je ne sais pas. Donc, il y a... Et de fois, même il y a certains éleveurs qui nous laissent dire que ces bœufs appartiennent aux responsables tchadiens. Ils sont couverts et c'est ceux-là qui les dotent en armes. Donc, ça devient politique. Là, le ministère des Affaires étrangères a intérêt. okay, à remonter et discuter à un certain niveau. Nous avons déjà commencé ce travail-là. Ce travail, on a fait en amont, mais il faut que cela soit élargi au niveau de la République
sur ce point de transhumance. Après, vous avez parlé de cette réunion tripartite entre la République centrafricaine et les autorités tchadiennes.
Oui.
Mais si rien n'est fait du côté centrafricain, vous pensez que ces revendications auront gain de cause?
Mais pourquoi pas? Les rapports sont partis. Donc, il appartient donc aux décideurs de voir de quelle manière nous pouvions arriver à trouver des solutions. Et je dis une solution maximale. Donc c'est très important.
Monsieur le député, Dila, vous avez écouté, vous voulez rebondir, je vous vois.
Je veux rebondir, effectivement. Je partage les démarches que le préfet vient de dire. Mais nous, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons des résultats. Nous attendons des résultats. Ce ne sont pas des discussions tripartites et tout ça qui constituent une finalité. Voilà, dont la population a besoin. Nous voulons le résultat. C'est-à-dire, nous avons décidé que dès que les transhumants veulent rentrer, il faut les fouiller. Mais je vais poser juste une petite question. Qui va les fouiller? Puisque à l'entrée, voilà, de nos zones-là, il n'y a personne. Il n'y a pas de forces qui sont déployées voilà, dans des couloirs bien tracés où on trace. On dit que tous les transhumants doivent passer nécessairement.
Permettez, honorable. Prenez votre mal en patience.
Je finis. J'ai la parole en ce moment.
Allez-y.
Je comprends très bien. Voilà, donc il y a d'abord ce préalable-là. Si nous ne sommes pas en mesure, je me rappelle très bien, il y a 2 ans de cela, le Bénin a pris la décision pour interdire la transhumance en provenance du Nigeria sur son sol et d'un certain nombre de pays où il estime qu'il n'est pas en mesure de contrôler efficacement. Mais je crois que le pays ait le courage de prendre cette décision-là, de prendre cette décision pour dire que si nous ne sommes pas encore en mesure, nous n'avons pas les moyens pour protéger toutes nos frontières et contrôler tout ce qui rentre, voilà, pour l'instant, nous demandons aux pays voisins et frères que nous ne pouvons pas accepter la transhumance venant de leur pays. Je crois que on pourrait résoudre ce problème. Et si en ce moment, les gens viennent et violent notre volonté en rentrant, malgré notre décision de ne pas les accepter, ça, c'est une violation de frontières. Et ça, je crois que...
Vous êtes beaucoup plus en avance sur les autres, monsieur le député. Je vous coupe pas, mais oui. Vous allez revenir. Oui, monsieur le préfet, vous répondez rapidement avant de donner la parole.
Je disais tout à l'heure qu'il y a eu une réunion bipartite qui s'est tenue et sur le territoire tchadien, on l'a fait. Mais si seulement qu'il n'y a pas des résultats probants. Il n'y a pas des résultats probants, mais c'est dû à quoi? On doit se poser la question. C'est comme je le disais tantôt.
Qui est le plaignant dans ces
Je l'ai souligné tout à l'heure. Nous étions plus plaignants à la partie tchadienne parce que c'est le territoire centrafricain qui a été toujours menacé, je le dirais. Alors, la partie tchadienne nous a rassurés. Malheureusement, rien ne se fait. Je crois que vous avez intervenu ici en émettant une très bonne idée. Vous avez cité l'exemple du Bénin. Mais vous êtes bien placé, honorable, pour que vous puissiez en discuter à un niveau national. Je crois que vous, en tant que député de la nation, vous avez cette capacité, je crois, de réunir les autres et autour d'un collège, arrêter donc une décision salutaire pour le peuple africain.
Mais vous le savez très bien que le rôle du député, c'est pas de prendre des décisions sur le plan sécuritaire, etc., même s'il propose. Hein. Oui, monsieur Dila.
Il arrive de fois que les députés plaident pour la sécurité. Mais pourquoi ne pas plaider dans ce sens-là?
Non. Monsieur le préfet, je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Combien de fois nous avons, et moi personnellement, du haut de notre tribune ici à l'Assemblée nationale, j'ai demandé à ce que la transhumance soit suspendue. Parce que qu'est-ce que nous gagnons de cette transhumance? Nous pouvons juste aussi poser cette petite question. Les gens qui arrivent avec des armes, même les responsables des communes et tout ça, ne peuvent pas prélever rien que des taxes. Un maire ne peut même pas aller prélever les taxes sur ces transhumants qui arrivent. Ils ont des armes, ils menacent. Tu ne peux même pas les approcher. Pour quelle raison nous devons accepter? Et ce qui est dommage, et ça je le dis, ce sont même des autorités ici de l'élevage et tout ça qui marchent dans toutes les régions, qui font des démarches et tout ça pour encourager la transhumance, pour faire ceci, alors que ces transhumances-là constituent potentiellement voilà, des germes d'insécurité et que nous ne sommes pas en mesure de régler. Voilà, nous faisons notre part.
Vous l'avez déjà dit.
Nous disons des choses à l'exécutif.
Vous l'avez dit.
À l'exécutif de prendre des décisions.
Oui,
par exemple, quand il y a cette discussion voilà, tripartite,
je crois que c'est entre les responsables politiques, voilà, ils ont débattu entre eux. Nous, nous faisons notre part ici au niveau de l'Assemblée nationale, mais il revient aussi maintenant, voilà, à ceux-là qui sont habilités à prendre des décisions politiques, d'écouter aussi ce que nous leur disons.
Parce que ce oui, monsieur Baklik.
Oui, monsieur Armando, je n'arrive pas à comprendre, mais j'ai une question à poser avec le préfet de Luampendé. Il venait de dire tout à l'heure qu'il remonte l'information sur Bangui à chaque fois. Mais pourquoi nous sommes dans les mêmes conditions d'insécurité dans la ville de Bozoum et Luampendé en général? Vous voyez, ça me semble pas bien, parce qu'il remonte l'information à chaque fois. Mais pourquoi l'État n'a pas agi à cela? Ça fait que nous sommes dans les mêmes conditions. Ça fait plus d'un an. Nous subissons des choses qui vraiment nous n'arrivons pas à comprendre. Et si vous avez parlé de couloir de Transimans, vous avez parlé de Transimans avec l'arme à main, vraiment ça m'étonne, je n'arrive pas à comprendre. Je voulais poser une question, est-ce que au niveau des frontières, est-ce que ça a été sécurisé ou bien ça n'a pas été sécurisé, que les Transimans rentrent avec leurs armes à main pour compléter avec le groupe armé et mélanger dans notre territoire et faire des désordres, même les cultivateurs n'arrivent pas à cultiver, vraiment je n'arrive pas à comprendre, ça c'est très dénigrant. Est-ce qu'au niveau des frontières, ça se passe comment? Comme je n'ai pas été là-bas, le préfet a bien parlé. Je pose la question avec le préfet pour savoir est-ce qu'au niveau des frontières, comment ça se passe?
Oui, monsieur le préfet, vous voulez rebondir?
D'accord. Je rebondis donc à la question du représentant de la jeunesse de Bozoum, monsieur Baklik. Je vais vous dire une chose. Nous sommes restés pratiquement 96 heures au niveau de la frontière pour discuter de tous ces aspects. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout a été vu. Qu'a-t-il de faire pour que désormais il ait une transhumance apaisée? Nous avons vu le problème de couloir. Nous avons vu le problème de ceux qui viennent. Deux fois, ils viennent du Niger, du Nigeria, du Cameroun. Ils pénètrent sur le territoire centrafricain avec des armes de guerre. Nous l'avons interdit.
Non, monsieur le préfet, ça, vous avez discuté avec les autorités tchadiennes. Mais le problème de sécurité au niveau des frontières pour entrer ici chez nous, c'est pour cela que j'ai posé cette question.
J'en viens. Parce qu'au vu de ça, je ne suis pas allé à seul. Je suis allé avec les responsables des FSI et des FACA de la République centrafricaine qui ont pris part effectivement à cette rencontre. Donc des dispositions ont été prises. Il leur revient donc de mettre en application ce que nous avons arrêté. Ce n'est pas au préfet, ok, de leur dire, écoutez, tout ce que vous avez eu à apprendre, tout ce que vous avez écouté, c'est le préfet qui doit l'appliquer non plus.
Donc ils c'est pour dire là. Que cela n'a pas été respecté.
Ça dépend donc de la personne qui est responsable.
Puisque vous-même vous l'avez évoqué, monsieur le préfet, tout à l'heure, que ça fait déjà 6 mois. Allez-y, oui, reprenez. Oui,
bon, je voulais dire que dans tout c'est un débat. Mais dans tout ce truc qui est en train de traîner, c'est la population qui souffre. Est-ce que on ne peut pas vraiment, en attendant que cette population arrête de souffrir, qu'on arrête cette population de subir ces dégâts? Est-ce qu'on ne peut pas?
Oui, monsieur l'honorable, vous êtes en ligne, vous gardez la ligne.
On ne peut pas trouver un mécanisme pour alléger au moins la souffrance des populations rurales. On ne peut pas trouver une solution, un mécanisme qui pourrait peut-être permettre aux populations rurales, même si les véhicules peuvent, en tout cas nos forces armées ne peuvent pas se déplacer, il n'y a pas de véhicule, mais on ne peut pas trouver un autre moyen de substitution pour qu'ils au moins faire au moins une fois par mois un tour dans les axes, dans les localités, les communes qui sont abandonnées, pour permettre au moins à nos populations rurales d'avoir, c'est-à-dire de se réveiller, c'est-à-dire de se rappeler un peu qu'ils soient en sécurité, parce que de temps en temps, il y a nos forces armées qui se déplacent. Ou bien, comme disait M. le préfet, dans les zones minières, les gens, quand ils passent, les transhumants, ils viennent, ils visent le plus souvent leurs couloirs. D'abord, les couloirs de transhumants ne sont plus respectés.
Et ni contrôlés.
Ni contrôlés. Malgré les discussions qu'on a eu à faire avec l'ONG Concordis, qui s'occupe beaucoup plus de
la situation sécuritaire,
de la situation sécuritaire de transhumance, les solutions arrêtées ne sont pas exécutées. De toute façon, il n'y en a même pas. Alors, le paysan ne peut pas aller dans son champ. Et je veux vous dire que...
Et les conséquences. Maintenant, ce sont les conséquences. Parce que quand j'ai été avant-hier à Bata, à 15 km, et sur l'axe Bozoum, Boussem-Télévert, le village ici à 10 km. Mais c'est un peu difficile, hein, même le prix de manioc à galoper sur les marchés.
J'en viens. Donc, le manioc peut être produit, mais il n'y a pas moyen de les écouler sur le marché ici. Moi, je reviens de parler le dimanche. Si à Gagnon, on vend une cuvette de manioc à 1750, 1500, mais s'il y avait un moyen de déplacement, s'il y avait la sécurité, ou même s'il y avait la sécurité sur l'axe, les gens pourraient aller peut-être à vélo ou à moto, ramener du manioc, acheter moins cher pour peut-être bénéficier, de faire un bénéfice de 500 francs, 1000 francs ici. Mais on est maintenant à 4000 francs la cuvette de manioc. Le sucre qui se vendait peut-être à 800 et quelques francs, c'est à 1200, 1300, 1500 francs ici. Donc c'est autant dire que l'insécurité a une répercussion sur le
quotidien des Centrafricains. Oui, mais monsieur le préfet, les forces armées centrafricaines et leurs alliés, hein, et russes d'ailleurs, hein, j'allais dire, ne patrouillent pas au-delà de certains kilomètres, au-delà même de 10 kilomètres, et même dans la ville de Bozoum. Pourquoi? Quelles en sont les raisons?
Je vais vous dire une chose. Je dirais que notre armée n'a pas le pouvoir de ses moyens du fait que l'embargo pénalise encore l'armée centrafricaine. Il faut que nous comprenions. L'armée doit avoir du matériel nécessaire pour lui permettre d'aller sur le terrain. Malheureusement, amputé de ses moyens, l'armée, il est difficile à l'armée, effectivement, de s'assumer. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons connu ici, il y a de cela pratiquement 2 mois, où une patrouille des forces armées centrafricaines et leurs alliés allait vers Bata, plus particulièrement à Badali, où ils sont sautés sur un engin explosif. Et ça a causé du dégât. Et les gens sont devenus méfiants parce qu'ils n'ont pas, comme je le disais tout à l'heure, cette possibilité d'inspecter le terrain, pour ne pas dire inspecter ce terrain avant d'y aller. Il y a tout ça qui rime. Donc nous avons donc intérêt à comprendre pourquoi l'armée, à un moment, se trouve dans l'impossibilité, effectivement, de se mouvoir.
Oui, monsieur Dila, vous voulez rebondir tout à l'heure.
Oui, merci beaucoup, Armando. Merci bien. Je crois que je voudrais tout simplement poser une question au préfet. Il y a les décisions qui ont été prises, ces décisions qui ont été respectées, qui va appliquer la mise en œuvre, qui va suivre la mise en œuvre de ces décisions. Voilà. Mais je crois que le préfet est bien situé parce que c'est le préfet qui représente l'exécutif dans la zone. Quand les choses n'ont pas été respectées, quelle a été une autre solution ou proposition de recherche de solutions? Ça, c'est de 1. De 2, le préfet vient de dire qu'aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité, voilà, étant sous l'embargo, ne peuvent pas efficacement faire leur travail. Partiellement, je pourrais être d'accord, mais je dis bien partiellement. Parce qu'aujourd'hui, on comprend très bien qu'il y a ce problème d'embargo qui est là, mais il y a beaucoup de pas qui ont été franchis. Notre pays peut acquérir du matériel de guerre, etc., jusqu'à un certain niveau. Je crois que ces gens avec qui nous sommes en train de nous confronter, voilà, qui sont dans la brousse autour de 15, 20, 30 kilomètres dans l'axe de Bozoum, ce ne sont pas des gens qui ont des missiles et que nous ne pouvons pas avoir des missiles. Ils ont des Kalachnikov, ils ont peut-être des lance-roquettes. Ça, ce sont tous des armes que nous pouvons aujourd'hui efficacement acquérir parce que nous avons déjà la possibilité, la dérogation de le faire. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que nous nous focalisons sur ce problème d'embargo pour dire que nous sommes sous l'embargo et que pour cet embargo-là, nous ne pouvons pas continuer à aller à 15 km, 20 km. Non. Moi, il y a une seule question que je pourrais me poser. Vous savez, quand les alliés sont arrivés, que ce soit les alliés russes, que ce soit les alliés rwandais, je crois au départ, ces gens ont commencé à faire un travail que les gens ont commencé à apprécier. Ils ont travaillé, les gens ont apprécié, ils ont été partout, même dans des petits villages, les coins et les recoins. Aujourd'hui, ils ne vont plus nulle part. Ils se cantonnent quelque part. Et tu vois, progressivement, ce sont les groupes armés maintenant qui commencent à ronger du terrain, à reprendre du terrain, etc., etc. Mais c'est la même chose que nous avons vécu avec la MINUSCA. Quand la MINUSCA était venue, au tout départ, la MINUSCA faisait son travail. Mais dès lors qu'ils ont commencé à se rendre compte qu'il y a des intérêts dans ce pays-là à exploiter, qu'il y a des intérêts à pouvoir en profiter pour leur pays, pour eux-mêmes, ils ont commencé à vouloir entretenir ces insécurités-là. C'est ce que la MINUSCA a fait. Et aujourd'hui, mais méfions-nous, ça je m'adresse aux responsables de ce pays-là, d'avoir leur plan stratégique, opérationnel stratégique-là, d'avoir le plan national. Nous ne pouvons pas continuer à compter que sur ces gens-là. Dès lors qu'ils vont se rendre compte qu'il y a des richesses dans ce pays-là, eux-mêmes vont commencer à entretenir de l'insécurité. Ils vont continuer à entretenir de
l'insécurité, comme nous avons le cas de la MINUSCA qui est là depuis 20 ans et qui ne nous a même pas amené, qui ne nous a pas amené la sécurité.
Quoi, depuis 20 ans, mais peut-être 10 ans pour la MINUSCA. Oui, monsieur, oui. Vous chutez.
Ils seront là. Vous allez peut-être me donner raison qu'ils seront là pour 20 ans.
Bon, ils seront, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore. Oui, allez-y.
Voilà, bon, pour l'instant, mais bon, il y a déjà au moins une dizaine d'années, c'est même trop, et nous vivons toujours les mêmes problèmes d'insécurité. Ce que je voudrais dire, il faut que les responsables de ce pays-là commencent à compter sur nos forces de défense et de sécurité intérieure.
Vous l'avez déjà dit, monsieur Renaud.
Nous devons mobiliser les moyens à mettre à leur disposition.
On va écouter le préfet, puisque vous avez posé deux petites questions au préfet. Si ça vous va bien, place maintenant à vous, monsieur Ungaina, afin que vous puissiez répondre aux préoccupations de l'honorable
du député. Oui, je ne peux que répondre aux préoccupations du député. Il a deux préoccupations qu'il a soulevées. La première préoccupation est qu'il parlait donc d'embargo dont j'en ai fait état. Vous allez vous dire que ce n'est pas le préfet qui est décideur. Et je ne suis qu'un agent d'application. Donc la décision vient d'en haut. Je crois que autour de ce débat, je crois que nous allons être écoutés. Et la gouverne va prendre ses responsabilités pour se dire, mais écoutez, désormais, voilà ce qu'elle a de faire. Comme disait tout à l'heure au préalable, qu'est-ce qu'on doit faire pour éradiquer effectivement l'insécurité qui sévit? Je le dirais d'une manière générale, c'est tout le pays dont on connaît l'insécurité. Tous les jours, on écoute à la radio, par-ci, par-là, il y a eu des attaques, il y a eu mort d'homme. Et le cas récent est dans le Limpende, où les rebelles tchadiens ont tué 13 personnes. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Je ne suis qu'un agent d'exécution. Les décideurs sont là. C'est à eux donc de prendre donc cette responsabilité. Et de deux, vous disiez tout à l'heure en ce qui est de la transhumance, c'est un aspect très vaste. C'est un aspect très vaste où plusieurs personnes, même des ONG, y concourent pour faire en sorte que nous ayons une transhumance apaisée. Malheureusement, comme je le disais, il y a eu des réunions autour où cela n'est pas encore compris, mais il faut toujours booster, il faut toujours aller de l'avant, titiller.
Vous avez évoqué la question de ce qui s'est passé à la frontière. Que se passe-t-il en ce moment à la frontière centrafricaine ou tchadienne via la sous-préfecture de Paoua concrètement?
Du moment où l'Ouampéné est scindé, je n'ai plus une vue sur la préfecture de Limpende.
Pour l'instant, vous n'avez pas encore un préfet dans Limpende.
Il y a un préfet intérimaire.
Un préfet intérimaire. Monsieur, beaucoup, une question pour vous tous. Beaucoup d'habitants de l'Ouampéné sont toujours pessimistes. L'espoir de retrouver la sécurité d'Atan est certain. Parmi la population, on évoque une certaine complicité entre les hommes armés et certaines autorités préfectorales. Êtes-vous aussi au courant de cette plainte, monsieur le préfet?
Mais je dirais quelle complicité. Si seulement que cela est explicite, nous pouvons y répondre. Mais quelle complicité il y a entre ces groupes armés et les autorités locales? Que cela soit expliqué.
Mais vous avez écouté cette information, tout comme nous?
J'ai écouté, mais c'est bon. Comme c'est des rumeurs, on ne peut pas aller. Il faut vérifier les rumeurs. C'est des trucs qui...
Les gens peuvent... Oui, c'est ce que les gens disent. Dans les débats ici à Bozoum et bien d'autres. Qu'il y a certaines autorités... Oui, on vous écoute, monsieur. Gardez la ligne, monsieur l'honorable. Oui, continuez, monsieur. Oui,
donc, c'est des rumeurs. Ndegelouk est en train de créer une émission sur les fausses nouvelles. Donc, on n'a pas le moyen de vérifier. Pour vérifier ces nouvelles, il faut peut-être... Quand c'est entretenu à Bozoum, il faudrait peut-être aller dans les zones rurales pour vérifier. Mais on n'a pas d'accès aux zones rurales. Mais c'est pas, en tout cas, pour le moment, je ne suis pas informé.
Oui, monsieur Baknik, d'abord, avant de...
Oui, comme disait monsieur Serekosé, c'est vrai. Il y a le fausse rumeur et le vrai rumeur. Il faut savoir cela. Il y a certaines autorités qui sont complices avec les groupes armés. Si je dis cela, je dis, c'est normal. Pourquoi? Parce que ce peut parler une personne... peut venir dire une chose concernant les groupes armés et le secret a été dévalué par une autorité qui on a écouté, ça a secoué la ville. C'est pour dire que la personne aussi est complice avec les groupes armés. Vous voyez maintenant les autorités militaires parfois trahies de pareilles informations comme ça. C'est pour dire que quand je trahis, c'est pour dire que je suis dans la complicité aussi.
Oui, donc vous voulez dire qu'il y a des informations infiltrées, hein, filtrées à temps, ou bien qui sont divulguées avant même certaines opérations ou certaines situations ici.
Oui, c'est vrai, nous on est des civils, on a peur de nous aussi, on a peur de représailles, mais s'il y a quelque chose, on peut dire sans cachette, mais si ça a été dévalué, on a écouté ça chez quelqu'un, c'est pour dire que certaines autorités militaires sont trahies les secrets, c'est pour dire que c'est ce qui fait qu'on a comparé les choses.
Oui, monsieur le préfet.
Oui. Je réponds donc à ces préoccupations. C'est que après l'accord de Bangui, le 6 février 2019, il a été mis en place des mécanismes. Et ces mécanismes sont orientés dans des domaines précis. C'est de faire en sorte qu'on se retrouve autour d'une table avec les groupes armés,
les leaders,
on discute et trouver donc des moyens, des voies et moyens équilibrer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Il y a les comités techniques de sécurité qui est présidé par un sous-préfet et le comité de mise en œuvre préfectorale par un préfet. Donc, nous sommes en contact avec ces leaders. Les groupes armés. On discute de ces aspects pour ne pas dire décrisper cette situation. Malheureusement, ceux qui n'assistent pas ne comprennent pas le fond. Ils interprètent à leur manière.
Et donc aussi, la population n'est pas au courant de ce que vous faites.
Non. Pourquoi ? Parce que c'est donné à une classe. C'est donné à une classe, effectivement, de se réunir autour de cette table et discuter de cet aspect. Je vais vous dire une chose. Bouzoum, à l'époque, ne constituait que la préfecture de le Lompendé, il n'y avait pas le Limpendé. Nous avons instauré le comité de mise en œuvre préfectorale à Bukaranga, plus proche de Sidiki, qui était donc le leader des 3R.
Oui.
Et c'était au vu de ça qu'on trouvait tout. Mais malheureusement, avec l'avènement de la CPC, tout a été dissous. Et du moment où c'est dissous, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Vers Tatale, en exemple, sur l'axe qui mène à Bukaranga, il y a un foyer, j'allais dire, de ces éléments 3R. Moi, préfet, ayant su que ces hommes y sont, qu'est-ce que je dois faire? Rester les bras croisés, les laisser faire, les laisser être agressifs par rapport à la population?
Et maintenant, en vous écoutant, c'est quoi? Vous travaillez, mais l'information ne passe pas pour que la population ne soit au courant de ce qui se passe effectivement, puisque si on vous voit, par exemple, on voit quelqu'un, on voit une autorité appeler, par exemple, un leader de groupes armés, c'est un peu difficile pour que les gens puissent comprendre.
Tout à fait, parce que, comme je le dirais tout à l'heure, ces données, c'est un vase clos. C'est un vase clos, cette réunion.
Oui, monsieur Dila, vous êtes à l'écoute de cette question. On parle de certaines complicités entre ce que la population déplore, entre les leaders. Je parle des fonctionnaires, des autorités et certains leaders de groupes armés.
Je vous remercie. Je pense que ce que le préfet vient de développer, le dialogue avec les groupes armés pour ramener la paix, la sécurité au profit de la population de la région, c'est pas ça que la population est en train de critiquer. C'est une forme de complicité par rapport à des intérêts. C'est ça que la population est en train de dénoncer. Je vais vous donner quelques exemples. Nous sommes des élus. Nous avons toujours écouté. Les gens nous appellent pour nous dire un bon nombre de choses que parfois, nous aussi, nous cherchons à vérifier. Imaginez un groupe, les éléments d'un groupe armé qui exerce des exactions sur une population et que la population appréhende ces éléments des groupes armés-là, les déporte au niveau de la gendarmerie et que les autorités se lèvent pour aller libérer ces éléments qui ont fait du mal à la population. Comment vous pouvez qualifier cela? Est-ce que c'est pas une complicité? Est-ce que c'est au nom de ce dialogue-là pour ramener la sécurité dans la zone que même ceux qui ont exercé des exactions sur la population, ces autorités-là se lèvent pour aller les libérer? Ça s'est passé à plusieurs reprises dans nos régions, que ce soit au niveau de la gendarmerie de Ndaoundaï, où les gens, les éléments des groupes armés qui ont été dans les villages, qui ont tué des gens et que les gens les ont appréhendés, même avec des armes, ont ramené à la gendarmerie et qui par la suite ont été libérés et tout ça. Mais comment vous voulez que la population ne puisse pas croire
ne puisse pas se convaincre qu'il y a une forme de complicité entre responsables et ces groupes armés-là. Je donne un autre exemple.
Rapidement, le temps nous fait défaut.
Je ne sais pas. Voilà, sur l'axe Tatale.
En allant vers Bokaranga.
En allant vers Bokaranga pour aller discuter avec ces groupes armés et tout ça. Pour quel résultat? Pour quel résultat aujourd'hui? Qui nous dit pour quel résultat? Alors que ces groupes armés-là ont cette manière d'endormir même les responsables, de les faire endormir, de les corrompre, s'il faut le dire, de les corrompre, pour gagner du temps, pour gagner du terrain. Et ça, je crois que c'est vu par la population. Et la population.
Désolé. Désolé, vous l'avez dit. Oui, oui, mais aussi, pour tout ce que. Oui, monsieur le préfet, vous avez une minute pour répondre.
Oui,
je vous en prie.
C'est pour répondre à l'honorable. C'est vrai, il a fait ce développement. Mais je vais vous dire une chose d'une manière simple. Pourquoi il a été mis en place ce mécanisme? Ça, c'est un. Et de deux, la faute pénale est personnelle. Si quelqu'un commet une faute, mais ça l'incombe. Il y a ça qu'il faut voir. Je dirais ici, dans le comité de mise en œuvre préfectorale, cela est renfermé de toutes les couches. Et quand nous tenons une réunion, il y a une partie importante où ceux-là doivent se retrouver et partager avec les autres pour qu'ils comprennent ce que c'est. Mais ce n'est pas au prophète donc d'aller vers les autres et le dire. C'est pourquoi c'est exprès que cela est constitué de la sorte.
Voilà, mais de tout ce que nous avons dit pour corroler les difficultés rencontrées, les FACA ne peuvent pas aller sur le terrain pour sécuriser la population, les villages, des villages environnants, etc. D'abord, c'est la question de route. Là, nous avons déjà évoqué, M. Sérékossé, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, que la route aussi constitue une sorte d'insécurité pour la population. Mais aujourd'hui, que fait le service préfectoral des travaux publics?
Le service préfectoral des travaux publics, c'est un service qui n'existe presque pas parce qu'il n'y a pas de moyens de travail. Monsieur le préfet, là, il va peut-être. Il n'y a pas de moyens de travail comme les FACA, comme tout le monde, il n'y a pas de moyens de travail. Et que les véhicules, même s'il y a, on envisage d'envoyer peut-être un moyen pour réaliser certaines activités, ça ne peut pas passer. Parce, ou bien ça transite par voie et que ça prend du temps. Mais de toute façon, il n'y a rien. Il n'y a pas de...
Ça bloque la circulation et les patrouilles et le développement. Oui, monsieur Baknik.
Monsieur Armando, on n'a pas besoin de cacher toutes les routes. Les cinq axes qui mènent sur Bozoum sont vraiment dégradants. Même les ponts, vous voyez, certains camions roulent sur l'IPN. Vous voyez, ça, c'est pas au 21e siècle, c'est pas du tout normal. Ça, c'est pas normal. Nous, Bozoum a rupture avec toutes les villes qui sont voisines. Avec Bozoum, vous voyez, même sur l'axe Bossangwa, on a rupture sur Bossangwa, rupture sur Pawa, rupture sur Bossangwa. Vous voyez, il y a trop même des handicapés dans la ville de Bozoum. Je vous dis, cela, c'est normal et c'est la route. Vous voyez, il y a des handicapés et les jeunes. Un jeune à l'âge de 18 ans, 20 ans, il est devenu handicapé. Vous voyez le danger maintenant. S'il n'arrive pas à nourrir ses enfants, les enfants vont noyer et c'est un danger pour la République. Vous voyez, vraiment, ce n'est pas la route. Au 21e siècle, toutes les routes ne sont pas praticables. Vraiment, ça, c'est très déshonneur pour un centrafricain.
Quelques secondes, monsieur le préfet. L'une des causes de l'insécurité persistante dans l'Ouampéndé, c'est la dégradation de la route.
Oui, je dirais que cette dégradation de route n'est pas seulement dans l'Ouampéndé, c'est d'une manière générale. C'est tout le pays qui connaît donc cette dégradation de route. Le sectoriel des travaux publics est là, peut-être qui a mis en place un plan de développement, je n'en sais trop rien. Donc, il faut reconnaître qu'effectivement, comme l'a dit mes prédécesseurs, que nous n'avons pas des routes, elles sont complètement dégradées. Donc il appartient à la gouverne de s'y mettre pour que les routes soient réhabilitées.
Monsieur le député Bernard Dila, une minute, je vous en prie.
Je ne peux pas dire plus que ça. De toutes les façons, la situation des routes, comme dans l'ensemble de notre pays, c'est vrai, comme le dit le préfet, c'est partout, mais l'Ouampéndé et le Limpéndé, exceptionnellement, sont des zones qui ont été, je ne sais pas si c'est sciemment, abandonnées à elles-mêmes, cette zone-là. Abandonnées. Parce que ça fait plus de 20 ans. Peut-être même les gens qui sont nés dans cette zone-là n'ont plus jamais vu ce qu'on appelle un caterpillar ou bien un peu clair ou quelque chose. Ils n'ont plus jamais vu ça. Ça fait plus de 20 ans. La route n'existe pas. Et je crois que ça fait non seulement du mal à cette population locale, parce que ça fait du mal parce que les gens ne peuvent plus utiliser les moyens qu'il faut pour exporter leur production, etc. Et ce qui fait que vous voyez que l'Ouampéndé, qui est le grenier République centrafricaine, aujourd'hui n'arrive plus à produire. Pas parce qu'il ne veut
monsieur,
pas produire. Mais comme il y a l'insécurité.
Monsieur Dila.
Et aussi, oui.
Désolé, fin de ce débat politique délocalisé ici à Bozoum, hein. Chef lieu de l'Ouampende, nous avons parlé de l'insécurité persistante dans la région et la dégradation de la route. Nous avons pris en compte aussi les réactions de nos auditeurs orales et écrites dans cette émission. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci à nos confrères de la voix de Koyale de Bozoum pour le coup de main professionnel et technique. J'ai bénéficié aussi de l'appui de Sylvain Nambois et de Charlena. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et surtout prenez bien soin de vous. Car on ne vit qu'une seule fois. À la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Mais Yang Mitu, Wika Belta. Merci.
Belta.